Philippe Métaphysique à Fribourg, le 15 février, deuxième cours.
Je ne reviens pas sur le problème de l'être en acte et l'être en puissance que nous avons tout à l'heure repris. Comprenons bien qu'après la découverte de la substance comme principe selon la forme de ce qui est, et l'acte comme principe selon la fin de ce qui est, la substance, principe, principe propre, si vous le précisez, selon la forme, principe de ce qui est, vu du point de vue de l'être. C'est arrivé à comprendre ce que ça veut dire, hein, pas seulement la fin de part que... Et l'acte, l'énergéia, principe propre selon la fin de ce qui est. Voilà les deux aspects qui nous permettent de toucher, d'atteindre ce qui est dans ce qu'il a de plus profond. Sa détermination et son terme, sa fin. Les deux aspects. Il n'y a pas d'autre principe de ce qui est. Il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a pas de principe propre selon la matière, il n'y a pas de principe propre selon la cause efficiente. Ça, il s'agit de bien le comprendre. Hein. Pas de principe propre selon la matière, parce que justement l'être, dans ce qu'il a de premier, est déterminé. Et pas de principe propre selon la cause efficiente, ce qui est peut-être plus difficile pour nous à saisir. Il manque une chaise. L'assistant est dans tout, tout ce les deux assistants doivent se retrouver.
Oui.
Ça, c'est votre
plus grande place. Ça.
Alors, il est tout petit, alors ça va. Bon, les principes selon la matière, il n'y a pas de principe propre, mais selon la matière de ce qui est, il n'y a pas de principe propre selon la cause efficiente de ce qui est. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Et c'est plus difficile du côté de la cause efficiente. Parce que nous avons un vieux mythe religieux, vous comprenez bien, hein, je parle en philosophe, nous avons un vieux mythe religieux qui nous dit la création. Donc, il y a une cause efficiente de ce qui est. Mais c'est vrai. Alors, ce mythe, hein, pour le philosophe, c'est un mythe. Tradition religieuse qui nous parle de la création. Il faut comprendre, et c'est une des purifications que la philosophie et la métaphysique fait, que nous ne pouvons pas découvrir immédiatement par mode inductif le principe propre, selon la cause efficiente, de ce qui est. Pourquoi ? Parce que ce qui est comme tel est au-delà du devenir. Donc ce qui est comme tel n'implique pas de cause efficiente. C'est ça qui fait comprendre l'autonomie de tout être du fait même qu'il existe. Tout être du fait même qu'il existe a une certaine autonomie. C'est l'autonomie fondamentale de Bousillon. Et c'est aussi l'achèvement de l'acte, du fait même qu'il existe. Il y aura une recherche de la cause première efficiente. Ce sera le problème de la création. Mais le problème de la création se pose d'une manière toute différente, c'est qu'ayant découvert l'existence d'un être premier, nous nous demandons quelle est la relation de cet être premier et de nous-mêmes. Oui. Alors là, on se pose le problème de cette relation. C'est curieux que ça se pose en termes de relation de dépendance ou d'autonomie. Est-ce qu'il y a en nous quelque chose qui échappe à la dépendance totale de l'être premier? Est-ce qu'il y a une matière, un forme, le tenu, n'est-ce pas, qui existe avant l'acte créateur de Dieu? Est-ce qu'il y a des petits restes de sang? Est-ce qu'il existe quelque chose en nous qui échappe à la relation de dépendance totale à l'égard de l'être premier? Ou est-ce que tout notre être, du fait même que nous sommes, dépend de l'être premier? Là, c'est le philosophe qui essaie de comprendre ce qui, dans les mythes de tradition religieuse, a de vrai. C'est vrai, tous les mythes, au plan philosophique, hein, je me place au plan philosophique, tous les mythes de la création ont un mode symbolique, parle d'une manière tout à fait particulière. Hein. N'oubliez jamais le mythe le plus ancien de la création, qui est un mythe colombien. Au commencement était le soleil et le canard. C'est comme ça que ça commence. Hein. Au commencement était le soleil et le canard. C'est évident. Je ne peux pas accepter ça philosophiquement. C'est assez difficile de dire qu'au commencement était le soleil et le canard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a une signification symbolique. Et le soleil dit au canard, il n'est pas bon pour toi de rester seul. C'est quand même très curieux de retrouver dans tous ces mythes certaines phrases religieuses qui ont été purifiées, décantées, que nous trouvons alors dans la Bible. Et pour la foi, c'est tout à fait différent, puisque c'est un livre révélé. Mais pour le philosophe, il regarde ça de l'extérieur. Et donc le philosophe regarde les livres de la Genèse encore comme des mythes. C'est le philosophe qui regarde ça encore comme des mythes. C'est un langage symbolique extraordinaire. Dieu a créé l'homme en façonnant le corps de l'homme comme un petit. C'est évident que c'est pas comme ça que ça s'est fait. Non. Parce que vous voyez, ça aurait pas été très commode. Que Dieu façonne le corps de l'homme de cette manière, et le corps de la femme à partir de l'homme. Alors, c'est un langage mythique. C'est un langage symbolique pour le croyant. Un symbolisme qui veut dire quelque chose, qui est une signification profonde. Et le philosophe essaie de voir ce qui, à travers ces mythes, à travers ces symboles, a de réel. Ça ne veut pas dire que la foi repose sur la philosophie. Toujours bien comprendre hein, les traditions religieuses, la philosophie et la foi. Maintenant cette gradation. Les traditions religieuses peuvent être purifiées par la philosophie. C'est même le rôle de la philosophie, de purifier les traditions religieuses. Pas les mépriser, mais les purifier. Mais la philosophie ne peut pas purifier la foi. La foi se purifie par elle-même. C'est le privilège de la foi. La foi se purifie par elle-même. Je peux mettre ma philosophie au service de la foi. Mais quand je la mets au service de la foi, ça ne veut pas dire pour purifier la foi. De temps en temps, ça arrive. Hein. Mais c'est faux. C'est justement là quelque chose qui est un aspect qui n'est plus vrai, c'est parce que la foi n'est plus assez vivante, alors on confond la foi et les traditions vivantes, les traditions religieuses. Confondre la foi et les traditions religieuses, nous savons très bien que c'est extrêmement dangereux. C'est une des confusions les plus terribles. Parce que les traditions religieuses, c'est l'homme à la recherche de l'absolu. Et la foi, c'est Dieu qui vient illuminer l'homme. C'est pas tout à fait la même chose. La foi, c'est Dieu qui vient illuminer l'homme. Tandis que les traditions religieuses, c'est l'homme qui cherche Dieu et qui essaie de découvrir Dieu. Et la philosophie regarde l'homme dans toutes ses dimensions pour comprendre l'homme en recherche de l'absolu, c'est évident, et l'homme en capacité de recevoir la foi. Une vraie philosophie doit aller jusque-là. Une vraie philosophie doit aller jusque-là, comprendre comment l'homme est capable de vivre une attitude religieuse et comment l'homme est capable de recevoir une lumière qui dépasse. Et ça, c'est entre parenthèses, hein, c'est ça entre parenthèses. je reviens à la métaphysique, hein, à ma philosophie première. Les deux grands actes de la philosophie première, la découverte de l'ousia, principe propre selon la forme de ce qui est, et je crois que c'est très important de dire toujours selon la forme de ce qui est ou selon la fin. Pourquoi ? Parce que mon intelligence est ordonnée en premier lieu à notre univers physique. Il est ordonné en premier lieu à l'homme. Mon intelligence n'est pas ordonnée directement à l'être. Il faut bien comprendre la phrase de saint Thomas. Hein. Primo cadit in intellectus ens. Alors entendez l'être qui tombe dans votre intelligence. Ça fait un de ces bruits extraordinaires. L'être qui tombe dans votre intelligence. Non, c'est pas. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Primo cadit in intellectus ens. La première chose que nous connaissons selon l'ordre génétique, ce sont les réalités qui sont mues. C'est pas l'être. Vous ne vous réveillez pas en disant « j'ai l'intuition de l'être » dans votre berceau. Alors retournez vite au berceau et vous aurez l'intuition de l'être. Non. La première chose que vous connaissez, ce sont les réalités mues. Mais l'ultime chose que vous connaissez, c'est l'être. Alors c'est beau. Primo cadit. Primo, selon l'ordre de nature, selon l'ordre de perfection, mais pas selon l'ordre génétique. C'est très très important de bien comprendre ça. Parce que si je comprends, selon l'ordre génétique, quelle est la première chose que je connais, c'est ce qui est mu. Et par le fait même, je connais ce qui est mu selon les diverses interrogations qui me font découvrir la forme, qui me font découvrir la matière, qui me font découvrir la cause efficiente, qui me font découvrir la cause finale. C'est la réalité physique, et même je dirais l'œuvre artistique. Les premiers plis de mon intelligence, c'est quand je connais l'œuvre artistique. Or, dans l'œuvre artistique, vous distinguez la forme, vous distinguez la matière, vous distinguez la cause efficiente, vous distinguez la cause formelle et vous distinguez la cause exemplaire. Dans l'œuvre artistique, vous pouvez faire cette distinction. Vous arrivez à distinguer ces différents aspects. La cause finale, je veux dire ici. La cause finale et la cause exemplaire. Je peux distinguer ces différents aspects par rapport à la réalité, à l'œuvre physique. Puisque c'est le pli de mon intelligence, il demeure toujours. Mais je le dépasse. Mon intelligence est capable de dépasser son conditionnement. L'intelligence fait une autocritique, ce que Kant a oublié de faire. Je crois que c'est ça la grande erreur de Kant. C'est d'oublier de faire son autocritique. Il a voulu être critique, mais il ne s'est pas critiqué. Si je critique les autres, je dois me critiquer moi-même. Vous savez bien ça. Alors quand on commence à se critiquer soi-même, on critique moins les autres. C'est la question de... C'est vrai au plan philosophique et c'est vrai au plan moral, c'est bien évident. Alors l'autocritique de la philosophie, de l'intelligence, c'est de comprendre la différence entre son conditionnement. Mon intelligence est conditionnée. Je suis très bien, puisque je connais tout par mes sens. Donc je suis conditionné. Je n'ai pas une intuition directe de la réalité. Je suis conditionné parce que je connais les réalités par mes sens. Et parce que je les connais par les sens, j'ai 5 contacts avec la réalité. Ma vision, mon toucher, mon odorat, mon goût, mon ouïe. 5 contacts avec la réalité. Eh bien, ce conditionnement, je peux le dépasser. Et je le dépasse en métaphysique. Dès que je suis dans une connaissance spéculative, je dépasse mon conditionnement. Et alors, c'est pour ça que je peux dire que c'est un principe propre selon la forme, parce que c'est la forme que j'ai saisie en premier lieu dans l'œuvre artistique. Selon la matière, pas de principe propre. Selon la cause efficiente, pas de principe propre, mais selon la fin, oui, il y a un principe propre. C'est l'être en art. Une fois que j'ai découvert ça, c'est la phase analytique, c'est l'analyse de la philosophie première. J'analyse ce qui est. J'analyse ce qui est du point de vue de l'être. Le toi néant. Je fais cette analyse. Et cette analyse implique de saisir ces deux principes ou ses causes. Ce sont des principes ou des causes. Mais ce sont des principes propres, selon la forme, selon la fin, de ce qui est vu du point de vue de l'être. Une fois que j'ai fait cette analyse, je suis capable, à ce moment-là, de démontrer quelle est la propriété de l'être. Vous savez bien, Aristote souligne que la philosophie première est une science. Et Aristote précise qu'une science, c'est la connaissance à partir des principes de ce qui est, de chaque réalité, Hécastome. La science regarde Hécastome. Regarde ce que chacun est en lui-même et découvre les propriétés de cet Hécastome. Et ça, c'est très très important parce que c'est là où nous saisissons le mouvement même de notre intelligence. Nous regardons la réalité. Quand nous regardons la réalité, qu'est-ce que nous voyons? Nous la décrivons. Qu'est-ce que c'est que décrire la réalité? Décrivez votre voisin. Décrire, c'est regarder attentivement en saisissant ce qu'il y a d'original dans le voisin. Hein? C'est décrire ce qu'il y a d'original dans le voisin. Si j'ai un voisin qui a un nez proéminent, j'en fais une caricature. Hein? Si je suis un peu artiste, ma description viendra vite une caricature. Une caricature qui sera immédiatement, vous voyez, la mise en lumière de tel ou tel caractère. Si je ne suis pas très artiste, je dirais, mon voisin, mais c'est pas d'importance, c'est toujours le même. Je ne vois pas les caractères particuliers. Il y a des gens qui savent décrire et des gens qui ne savent pas décrire. Ça, c'est très très net. Après un voyage, on voit tout de suite la manière dont les gens ont retenu. Il y a des gens qui ne retiennent que grâce à leur appareil photographique. Ils ont pris beaucoup de photos. Alors, ils retiennent grâce à l'appareil photographique, mais n'ont rien retenu intérieurement. Il y a des gens, au contraire, qui regardent. S'il y a l'appareil photographique, c'est très très bien, ça rappelle. Ça rappelle tel ou tel détail qu'on risque d'oublier. Mais au fond, on a gardé d'un paysage quelque chose de spécial. Décrire. C'est important de savoir ce que c'est que décrire. Décrire, je crois, c'est saisir ce qu'il y a d'unique dans un paysage. Décrire une personne, ce qu'il y a d'unique dans une personne. Pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, aussi psychologiquement. Je décris quelqu'un. J'arrive tout de suite à voir ce que c'est. Donc, décrire. Décrire est d'ordre artistique. L'artiste décrit admirablement. Ce n'est pas philosophique. Le philosophe, comme le savant, dépasse la description pour analyser. J'analyse. L'analyse, c'est dépasser le visible pour découvrir l'invisible. La description, c'est toujours l'ordre du visible. Toujours. Je reste dans le visible. C'est pour ça que je reste dans une connaissance esthétique. Esthésis, hein. Esthétique, ça veut dire une connaissance sensible. Elle est très intelligente, mais elle reste sensible. Et donc, je reste dans une connaissance sensible quand je décris. Tandis que quand j'analyse, j'essaie de décrire, de dépasser le visible pour saisir l'invisible. Et là, je commence ma connaissance philosophique et scientifique. Le savant, c'est celui qui veut aller au-delà de la description. Ça, c'est sûr. C'est le propre du savant. Et ça, ça a toujours été comme ça. C'est très curieux. Aristote dit ça très très bien au début de la métaphysique. Hein, quand il dit, il y a une connaissance expérimentale qui est uniquement la connaissance du fait, des choses que je vois, que je décris. Et puis, il y a une connaissance artistique qui implique un principe. Il y a une connaissance scientifique qui se fait à partir d'un principe. Or, le principe, ça ne se voit pas. Il fallait le père Garry de Lagrange pour dire, quand vous vous promenez, promenez-vous avec un grand principe. C'est, alors, on voit très bien, c'est le parapluie qu'on porte, ça, c'est le grand principe. Là, rendez-vous avec un grand principe. Et bien, le principe, ça ne se voit pas. Je n'en ai jamais vu de principe. Le principe, ça se saisit. La loi, ça ne se voit pas. Ça se saisit, ça se connaît intellectuellement. Seule l'intelligence est capable de saisir l'universel. Vous n'avez jamais vu l'universel. Ce sera assez affolant de voir l'universel. C'est. Vous le voyez dans des rêves ou des cauchemars. Et pas autrement, vous ne voyez pas le principe. Vous ne voyez pas le principe, vous ne voyez pas la loi, vous ne voyez pas l'universel. Or, la science commence avec la connaissance de l'universel. C'est très curieux. Pourquoi ce besoin de connaître scientifiquement? Pourquoi? Ce serait tellement plus beau de rester uniquement dans la description. Tellement plus beau, c'est vrai. Ça. La description, c'est merveilleux, ça se voit tout de suite. On n'a pas besoin d'expliquer. On voit une caricature de quelqu'un qu'on connaît bien. Ça vous fait sourire, ça vous fait immédiatement la caricature d'un homme politique. Non, c'est quelquefois merveilleux, c'est bien mieux qu'un article. Ça me fait dégringoler le bonhomme, ça. Immédiatement, il a le nez dans la poussière. Parce qu'il l'a plomb, il l'a grand, alors il l'a dans la poussière. On voit très bien ça. Une caricature, c'est quelque chose très mordant. Pourquoi la nécessité de la connaissance scientifique? Pourquoi la nécessité de l'universel? C'est que l'intelligence, liée au sens, demeure dans son conditionnement. Et alors, parce qu'elle demeure dans son conditionnement, l'intelligence n'est pas entièrement elle-même. Et elle veut aller plus loin. Elle est emmaillotée par l'imaginaire. Et elle est prise par le point de vue sensible. C'est vrai, notre intelligence, notre nous, est enveloppée d'imaginaire et enveloppée du sensible. Alors, quand je décris, je reste uniquement lié à l'imaginaire et au sensible. La caricature, c'est l'imaginaire. C'est justement ce que, ayant vu plusieurs fois une personne, quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire, gravé dans mon imagination, et mon imagination est en pleine lumière. C'est parce que mon intelligence est liée à l'imaginaire, liée au sensible. Mon intelligence veut être elle-même. Et c'est pour ça qu'elle abstrait. L'intelligence a besoin d'abstrait pour atteindre l'universel. L'universel, c'est ce que l'intelligence seule saisit. Et à partir de l'universel, on peut comprendre les lois et on peut comprendre les principes. Seule l'intelligence saisit ça. Et il y a un progrès de saisir ça. Parce que c'est l'intelligence qui, alors, se libère de ce conditionnement sensible, de ce conditionnement imaginatif qui est l'incarnation de mon intelligence, entre guillemets, incarnation de mon intelligence, qui fait que mon intelligence reste rivée au sensible, mon intelligence désire aller plus loin. Ce que Platon appelle avoir des ailes. Oui, c'est très beau, c'est tout à fait ça. C'est encore un symbole, il faut avoir une vie au sensible. Platon dit avoir des ailes. L'intelligence, tout d'un coup, prend son élan. Mais l'intelligence prend son élan en abstrayant tout le domaine du sensible et découvre l'universel, c'est beaucoup moins drôle, découvre la loi, découvre les principes propres. Et quand l'intelligence a découvert ses principes propres, quand l'intelligence a découvert cet universel, l'intelligence revient au singulier, à l'écastome. L'intelligence revient à l'écastome pour saisir dans l'écastome ce qui vraiment est ce qui le caractérise. Vous voyez donc, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça, je crois que c'est très important dans le cheminement de ma vie intellectuelle. Je ne m'arrête jamais à l'universel. C'est une maladie. Il faut passer par l'universel. Alors ça, c'est très nécessaire. Pas haïr l'universel. Haïr l'universel, c'est un manque d'intelligence. Il faut passer par l'universel, il faut passer par la loi, il faut passer par les principes pour revenir au réel, la réalité. La réalité singulière, parce que l'universel n'est pas la réalité. L'universel provient de la réalité, mais n'est pas la réalité. Et je reviens à les cascades, je reviens à la réalité telle qu'elle est. Pour le philosophe, il revient à l'homme concret. L'homme concret, c'est cet homme concret qui m'intéresse. Donc, je parle de l'aspect descriptif. Où ceci est les qualités d'un être. C'est ça que je peux dire. J'ai dit ces qualités, je saisis l'harmonie qui existe entre la qualité et la quantité. Je saisis sa figure, sa physionomie. Voilà ce que je peux décrire. Hein. Tout ce que l'artiste saisit est merveilleux. C'est pas suffisant. Je vais aller plus loin. Je dois atteindre l'universel, atteindre les principes propres. Et une fois que j'ai atteint ces principes propres, je reviens à la réalité, je l'éclaire de ce principe propre et je découvre alors ce qui caractérise cette réalité, je découvre ma propre unité. La conclusion scientifique, c'est de découvrir la propriété de chaque réalité, éclairée par le principe propre. Mais la propriété, c'est ça qu'il faut bien saisir, la propriété n'est pas une conclusion universelle, une conclusion du principe propre, c'est le principe propre appliqué à la réalité où je saisis cette réalité. Je saisis ce qui caractérise cette réalité. Alors, voyez la démarche que je fais au niveau métaphysique, au niveau philosophie première. Je pars de la réalité, je pars de moi. Cogito ergo sum. Je pars de moi. Je cogite, je pense, j'aime, et puis je dis je suis. Très très bien. Je peux très bien partir de là, c'est un point important. Ça. C'est le point de départ. Descartes est resté au point de départ. Il est resté au niveau descriptif. Il est resté au niveau descriptif. Cogito, cogito. Et puis depuis, tous les cartésiens, cogito, cogito, continuent. Ils aiment un peu, de temps en temps. J'oublie souvent d'aimer, parce que Descartes n'aime pas beaucoup. Mais il cogite beaucoup. Alors, on peut décrire cogito. Husserl décrit cogito de Descartes. Continue d'écrire. Décrit cogito. Puis il dit je suis en cogitant. C'est très vrai. Mais je peux aller plus loin, je peux dire ce qui m'intéresse, c'est vraiment connaître l'homme. L'homme qui pense, l'homme qui aime, l'homme qui travaille. L'homme qui est lié aux autres hommes, c'est ça qui m'intéresse, c'est de saisir l'homme. Et je veux saisir l'homme pleinement et totalement. Mais pour le saisir, je suis obligé d'analyser. Et en dernier lieu, pour saisir parfaitement l'homme, je suis obligé de saisir ce qui est du point de vue de l'être. Parce que l'homme existe. Et je veux saisir qu'est-ce que c'est que l'exister dans l'homme. Je suis obligé si je veux aller jusqu'au bout. Je saisis dans l'homme sa vie et je saisis l'exister dans l'homme. Et donc la métaphysique, c'est saisir l'exister dans l'homme. C'est pour ça que le point de départ de la métaphysique, hein, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Je suis. Ah, voilà. Pour Descartes, c'est la conclusion et pour moi, c'est le point de départ. Il faut la différence. Parce que quand Descartes dit cogito ergo sum, on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Tandis que quand je dis non, je pars, je suis. Je suis ceci est. Jugement d'existence. J'essaie de comprendre ce qu'est l'exister pour mieux comprendre ce que c'est que l'homme. Toute la métaphysique est pour ça. C'est pour mieux connaître l'homme. Et c'est pour connaître l'homme dans ce qu'il a de fondamental et de commun avec toutes les autres réalités. Je ne connais pas vraiment l'homme si je ne connais pas ce qu'il y a de commun dans l'homme avec toutes les réalités. L'exister. La petite bête du bon Dieu existe. Et j'existe. Vous savez bien, c'était l'intuition de Ravissa. Quand elle a vu le chat, elle dit, il existe. J'existe. Il y a quelque chose de commun. Nous existons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de d'œcuménisme fondamental du côté de l'exister? C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Il y a quelque chose de très fondamental. J'existe, le chat existe, il y a quelque chose de très fondamental, l'exister. Alors, j'essaie de comprendre ce que c'est que cet exister en lui-même, pour mieux comprendre par rapport à l'homme. C'est ça, en définitive. Comprenez bien le mouvement de la philosophie. C'est toujours l'homme qui m'intéresse, je dois regarder toutes les dimensions de l'homme, et donc je dois regarder l'exister de l'homme. Pour comprendre l'exister, je m'interroge et je découvre la substance et l'acte. Et je dis, il n'y a que deux principes propres, il n'y a que deux principes propres, ce qui est vu du côté de l'être. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas d'autres. Aristote les a découverts. Depuis Aristote, on les a répétés tant bien que mal. Et souvent, on n'en a répété qu'un. Et même, on a dit qu'Aristote n'en avait découvert qu'un. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'Aristote était une ousiologie. C'est Gilson qui dit ça. Gilson a oublié qu'il y avait un principe propre qu'Aristote avait dit, qui n'était pas la substance, qui était l'acte, et qui était saisi comme fin. Et donc je ne peux pas m'arrêter à la substance. La métaphysique d'Aristote n'est pas une idéologie. Elle l'est. Elle implique une découverte de la fin. Alors vous voyez, quand vous dites ousiologie, vous pouvez dire une téléologie. Parce que c'est une téléologie. C'est le logos de la fin. C'est-à-dire la fin comme principe de télos. Alors on voit les deux principes. Une fois que j'ai saisi ces deux principes, je reviens à la réalité, dans la lumière de la substance et dans la lumière de l'acte. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a de caractéristique à ce qui est? Qu'est-ce qui caractérise ce qui est? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce qui est? Et je dis que ce qui est possède une unité. Vous voyez? Il a une idée. La propriété de ce qui est, c'est l'un. C'est l'un. La propriété de ce qui est, c'est l'un. Voilà la propriété. Puis je reviens, vous voyez, à ce qui est. Ce qui est, dans la mesure même où il est un. Ce qui est, dans la mesure même où il implique du non-être, il est multiple. Donc j'arrive à ce problème très important de l'un et du multiple. Et vous voyez bien où ça se situe. Le problème de l'un et du multiple ne se situe pas au même niveau que la découverte de l'ousia et de l'acte. Il se situe à un autre niveau. C'est une conséquence. C'est une propriété. C'est une propriété de ce qui est. Ce qui est, dans la mesure même où il est un. C'est pour ça qu'Aristote dira que l'un est acolyte de l'être. Alors, on va essayer de comprendre ça, vous voyez, parce que c'est important, c'est le troisième grand moment de la structure de la philosophie première. Et c'est là où je saisis le caractère scientifique de la philosophie première. Le caractère scientifique. La découverte des principes, c'est très très bien, très important, c'est capital. Mais la découverte des principes, vous comprenez bien, ne me donne pas le dernier moment de la science. C'est présupposer la connaissance des principes pour pouvoir avoir une connaissance scientifique. Le propre de la connaissance scientifique, c'est de saisir les propriétés. C'est donc de revenir à la réalité pour saisir le caractère original de l'Ecaston. L'Ecaston ici, c'est ce qui est. L'Ecaston de la métaphysique, c'est ce qui est. Chaque réalité existe. Et dans la mesure où elle existe, elle est une. Alors ça semble très très simple, mais il faut encore essayer de bien le saisir. Alors, avant d'entrer dans le problème, Je vous rappelle, parce que je crois que c'est important de se le rappeler, petit topic très rapide, hein, petit topic historique, pour voir que de fait, c'est peut-être très important de bien saisir que le problème de l'un et du multiple est au fond le problème qu'on retrouve dans toutes les philosophies. Le problème de la substance et le problème de l'acte, nous ne le trouvons pas dans toutes les philosophies. Ça, c'est bien évident. Nous regardons le problème de l'acte et de la puissance dans la philosophie de Bergson, c'est pas commode à découvrir. Le problème de la substance dans la phénoménologie, c'est pas commode non plus à découvrir. Donc, c'est difficile dans la philosophie analytique, encore beaucoup plus difficile. Tandis que le problème de l'un et du multiple se retrouve dans toutes les philosophies. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que même si je ne suis pas au niveau des principes, je suis au niveau de la description. Or, au niveau de la description, c'est bien évident que l'un et le multiple, c'est ce que je vois tout le temps. Je regarde un paysage. Si j'ai un peu sens artistique, je dis, oh oui, c'est beau. Hein? Il y a une unité là-dedans. Oh, ça défigure l'unité, cette grue. Hein? Ça défigure quelque chose qui ne va plus très bien. Mais heureusement que c'est passager. Mais c'est quelque chose qui... On verra ça. Il y a toujours l'unité, une œuvre d'art. L'unité, la diversité. Toutes les philosophies impliquent le problème de l'individu. C'est pour ça que Remarqueur, Thomiste de Louvain, Remarqueur dit que le problème de l'un et du multiple, c'est le problème fondamental de toute la philosophie. Je ne crois pas, je vous dis ça parce qu'il l'a dit, mais je ne crois pas que c'est le problème fondamental de toute la philosophie. Je crois que le problème fondamental de la philosophie, c'est de découvrir la substance et l'acte. Et le problème de l'un et du multiple, c'est une conséquence. La conséquence n'est jamais un problème fondamental. Mais on dit que c'est un problème fondamental parce que, de fait, c'est celui que tous les philosophes ont parlé. Aucun philosophe rejette le problème de l'individu, même Spinoza. Spinoza, c'est le problème de l'unité. Même Plotin, tous, et Plotin dit lui-même, le problème de l'individu, c'est le grand problème philosophique, la question à laquelle on revient tout le temps, comment de l'un sort le multiple. Et c'est vrai, si le problème est saisi de cette manière-là, il n'y a pas de solution. Vous pouvez y réfléchir indéfiniment jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'arriverez pas à donner de solution, à se dire comment de l'un sort le multiple. Parce que de l'un, qui est indivisible, le multiple ne peut pas sortir. C'est impossible. Comment de l'être, hein, il peut y avoir le multiple. Ah, c'est autre chose. Mais de l'un, c'est impossible. Alors, c'est intéressant, vous voyez, de voir comment le problème, chez Remarqueur, chez Plotin, le grand problème philosophique, c'est de savoir comment de l'un sort le multiple. C'est vrai qu'au niveau descriptif, c'est le problème fondamental. Au niveau visible, hein, descriptif, au niveau visible, si ma philosophie n'était que la visibilité de l'être, le problème fondamental et premier serait le problème de l'individu. Ce serait le problème caractéristique. Dès que je suis dans l'invisible, dès que je suis dans l'ordre de l'invisible lié au visible, donc des principes et de l'universel lié au visible, alors, à ce moment-là, je dis non, c'est plus le problème fondamental. C'est un problème second. Parce que l'universel, c'est l'un et le multiple. L'universel, c'est le quatre. Le quatre et castom. Le quatre, non, pas les castom. Le quatre panthos. le catholou. Catholou, c'est l'universel, on a traduit universel, universel. Le catholou, qu'est-ce que ça veut dire? Selon le tout. Selon le tout. L'universel, c'est selon le tout. C'est-à-dire, c'est l'un dans le tout. L'un dans le tout. L'universel, c'est l'un dans le tout. Mais qu'à penser l'universel, qu'est-ce que c'est qu'animal ? Animal est un dans sa signification, et il est présent dans une multiplicité d'animaux. C'est l'un dans le tout. L'universel exprime l'intelligence qui recueille dans la très grande diversité l'unité. Et si l'universel, c'est l'être de raison par excellence, c'est-à-dire ce que l'intelligence invente, mon intelligence a inventé quelque chose d'extraordinaire. Elle a inventé l'universel. Et c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. L'intelligence a inventé l'universel. En inventant l'universel, elle a inventé la possibilité de la science. Ce n'est pas l'universel, mais pas la science. Il faut découvrir l'universel avant de découvrir la science. Or, qu'est-ce que c'est que l'universel? C'est l'intelligence qui recueille la grande multiplicité, la grande diversité, et qui saisit dans cette diversité ce qu'il y a d'un. Donc, elle met en lumière l'un à travers le divers, à travers le multiple. C'est curieux. Et comme l'intelligence a besoin de ce problème de l'individu. Et elle le noue dans l'universel. L'universel, c'est l'un dans la diversité. Ceci, c'est pour vous montrer combien ce problème, à la fois, est central, puisque on le retrouve dans toutes les philosophies, que c'est le grand problème selon Plotin, et que, de fait, mon intelligence ne peut pas penser sans le problème de l'individu multiple. Alors, au plan topique historique, première position, il faut toujours se rappeler, la position de Platon et des néoplatoniciens. Quand il s'agit de ce problème de l'individu, c'est capital de se rappeler la position de Platon et des platoniciens. Pour Platon et les néoplatoniciens, c'est-à-dire Platon et Plotin, l'un est au-delà de l'être. L'un est au-delà de l'être. L'un, c'est la fameuse chose du Parménon. Regardez dans le Parménide cette grande question. Est-ce que je peux dire que l'un est? Est-ce que je peux dire que l'un est? Eh bien non, je ne peux pas dire que l'un est, puisque l'un est au-dessus de l'être. Alors l'un est, donc il n'est pas. Et je ne peux pas dire non plus que l'un n'est pas. Alors ça ne va plus. Vous voyez, alors l'un est, et puis c'est tout, je ne peux pas dire autre chose. L'un est. Il est au-delà de toute participation. Imparticipable en lui-même, l'un au-dessus de tout. Donc, au-delà de l'être. L'être, c'est multiple. C'est très curieux comme position. C'est très intéressant. Il y a quelque chose de juste. Il y a quelque chose de juste dans cette position. L'un est au-delà de l'être. Pourquoi? Parce que l'être, il m'est toujours donné dans la multiplicité. L'être, c'est la diable. Toujours, l'être c'est le diable. Quand je pense, que je pense l'être, je suis dans la dualité. Tandis que l'un est au-delà de la pensée. L'être, il est fait pour la pensée. Alors, on verra très rapidement une petite topique historique pour aborder le problème de l'individu et essayer de comprendre comment ce problème de l'individu nous aide à comprendre la propriété de ce qui est en tout cas.